tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Les incendies maîtrisés en Corse, mais se pose désormais la question des responsabilités. Le maire de Calenzana va porter plainte. Cette fois, c'est vraiment la fin. Ford confirme le rejet de l'offre de reprise de son usine de Blanquefort en Gironde. Le ministre de l'économie fustige l'attitude indigne du constructeur. La plainte pour viol contre Luc Besson, classée sans suite, mais le dossier n'est pas clos pour autant. L'avocat de la plaignante annonce en effet le dépôt d'une nouvelle plainte. Emmanuel Macron ment, il ne défend pas l'agriculture française. C'est ce que dit Laurent Wauquiez en visite porte de Versailles. Ils sont accusés d'avoir combattu pour Daesh. 13 Français récemment remis aux autorités de Bagdad. Ils seront jugés sur place selon les lois irakiennes. Mike Pence, aux côtés de Juan Guaido, le vice-président américain, a fait le déplacement au sommet de Bogota pour apporter le soutien sans faille des USA à l'opposant vénézuélien. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, cristallise la colère des manifestants. Ils espèrent que le président sortant renoncera à briguer un cinquième mandat, rien n'est moins sûr. Encore deux jours pour profiter du soleil et de la douceur, c'est ce que nous promet Elena Morna. Demain, en tout cas, sera une belle journée avec des températures estivales dans le sud-ouest. Il fera jusqu'à 25 degrés demain après-midi entre le Pays Basque, le Lot et le Béarn. 22 pour Nîmes, 21 à Clermont-Ferrand, 20 à Bourges, 18 à Nantes, Paris, Lille, Strasbourg et Lyon, 17 à Brest, 15 à Ajaccio et 13 à Charbourg. Attention, changement de temps donc à partir de jeudi et prévision complète à la fin de ce journal. Je vous rappelle également votre rendez-vous comme tous les soirs à 22h20 avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir Fabien Solman, fondateur de Poula House qui commercialise des œufs bio issus de poules pondeuses qui n'iront pas à l'abattoir.
Europe 1.
En Haute-Corse, ce sont donc près de 1500 hectares qui ont été brûlés en quelques heures ce week-end, dont 1200 aux alentours du village de Calenzana. Ce soir, la situation est stabilisée, mais les questions sont nombreuses. Une cinquantaine de départs de feu, c'est énorme. Justin Morin, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place, Calenzana, où la menace semble donc écartée, mais où les pompiers restent mobilisés et très vigilants.
Oui, les 2300 habitants de ce petit village situé au pied de la montagne vont certainement passer une meilleure nuit que les deux précédentes, même si le feu n'est pas encore totalement éteint. La nuit est désormais tombée, mais jusqu'à la fin de journée, on pouvait apercevoir une fumée noire s'échapper derrière une crête montagneuse. C'est le principal point chaud sur lequel les pompiers ont travaillé tout l'après-midi. Il est situé dans une zone très escarpée, difficilement accessible. Deux Canadairs ont enchaîné les allers-retours sur le site. Les pompiers, aidés par les techniciens de l'Office national des forêts, ont dû défricher la végétation pour se frayer un chemin et intervenir sur les endroits sensibles. L'objectif maintenant, c'est surtout de protéger la forêt de Bonifatu, non loin du village de Calenzana. Pierre Guidoni, le maire de la commune, salue le courage des secours sur place, mais il dénonce surtout les criminels à l'origine des incendies, des pyromanes selon lui, sans aucun doute.
Le feu, il a été mis. Ces gens-là, il faut les prendre et puis ils ne prennent pas la dimension de ce que ça peut causer. Et mettre autant de vie en danger pour avoir le simple plaisir d'allumer une allumette, c'est inadmissible.
Heureusement, le vent qui a encore soufflé fort aujourd'hui doit se calmer dans la nuit, ce qui devrait permettre aux pompiers de travailler beaucoup plus sereinement dès demain matin.
Justin Morin, envoyé spécial d'Europe 1 en Haute-Corse. Cette fois, ça semble bel et bien fini. Le constructeur automobile Ford a confirmé aujourd'hui qu'il refusait la dernière offre de reprise de son usine de Blanquefort en Gironde par Punch Powerglide. La fermeture paraît donc désormais inéluctable. Ford dit vouloir privilégier un plan social pour l'avenir de ses 850 salariés. Les syndicats ont été reçus à Bercy cet après-midi par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, très remonté contre le constructeur.
Nous avons travaillé main dans la main avec les élus locaux et avec les représentants syndicaux. Cette coopération, elle a été exemplaire. Ford ferme la porte. Ford ne se comporte pas comme devrait se comporter un grand groupe industriel digne. Nous avons obtenu, et nous allons continuer à nous battre, pour obtenir de la part de Ford des compensations. Des compensations financières. Ford paiera.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, cet après-midi.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h04, merci d'écouter Europe 1. Il n'y aura pas de poursuite. L'enquête pour viol qui visait Luc Besson a été classée sans suite. Le réalisateur avait été accusé par une comédienne. C'était en plein festival de Cannes. Cette femme avec laquelle il entretenait une relation intime depuis 2 ans affirmait que le cinéaste avait abusé d'elle dans sa chambre de l'hôtel Bristol à Paris. Luc Besson a toujours nié ces accusations et à l'issue de 9 mois d'enquête, donc la justice a estimé que l'infraction n'était pas constituée. Son avocat salue une enquête très complète. À l'inverse, l'avocat de la plaignante a l'intention de déposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile. Maître Francis Spinner avec Pierre de Cossette.
Je dois dire que je suis très choqué par l'attitude du parquet de Paris qui consiste à confisquer les affaires parce que l'enquête préliminaire, c'est l'enquête qui met à l'écart celle qui est plaignante. Moi, je ne sais rien de ce qui a été fait. Je n'ai pas accès aux expertises, aux auditions éventuellement d'autres femmes. Je crois ce que dit Sand Van Roy et je pense qu'elle a le droit d'avoir une enquête contradictoire menée par un juge impartial. Et à l'issue de cette enquête, je suis persuadé que justice lui sera rendue.
Maître Francis Spinner, l'avocat de la comédienne qui accusait Luc Besson, il était avec Pierre Decossette pour Europe 1. Le bal des politiques au Salon de l'agriculture, c'est un grand classique. Du premier au dernier jour, il se succède, porte de Versailles. Aujourd'hui, on y a vu notamment Édouard Philippe, Nicolas Dupont-Aignan, mais aussi Laurent Wauquiez, le patron des Républicains qui a prévu d'y retourner demain et qui s'en est pris à Emmanuel Macron. Il estime que le gouvernement n'a pas défendu la politique agricole et les agriculteurs.
Moi, ce que je vois, c'est que ses discours sont en contradiction totale avec ce qu'il a fait depuis 2 ans. La réalité, c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on n'a pas fait de la défense de notre politique agricole à Bruxelles notre priorité. Que ce soit Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy, tous les présidents de la République avaient défendu la politique agricole. L'agriculture, il ne faut pas uniquement la défendre quand on veut faire un gentil discours devant les agriculteurs. C'est les actes qui comptent. Là, ce que fait le président, ce n'est pas correct. Parce qu'on sait tous qu'en ce moment, le budget de la politique agricole risque d'être amputé de 10 à 15%. Et donc ensuite, quand il vient sur le salon en disant « je défends la politique agricole », c'est faux. Quand il dit ça, il ment.
Laurent Wauquiez au micro Europe 1 de Maud Descamps au Salon de l'agriculture. Salon qui voit donc défiler les politiques, mais aussi les animateurs et les journalistes d'Europe 1. N'hésitez pas à nous rendre visite, évidemment, sur le stand de France Terre de Lait. L'Agence de sécurité sanitaire promet une étude indépendante sur le glyphosate. Un cahier des charges est en cours d'élaboration pour plancher sur la dangerosité du pesticide qui continue, vous le savez, de faire débat. Cancérogène ou pas, il s'agira, dit l'ANSES, d'essayer de trancher. Cigarettiers et buralistes pressent le gouvernement français de renforcer encore la lutte contre le trafic de tabac. Après l'annonce d'un nombre record de saisies par la douane l'an dernier, des résultats qualifiés d'impressionnants par le ministre de l'Action et des Comptes publics. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 et l'Irak qui va juger 13 djihadistes français présumés capturés en Syrie. À tout de suite.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h08, merci d'écouter Europe 1. C'est la suite de votre journal. 13 djihadistes français soupçonnés d'être des combattants de l'État islamique et capturés en Syrie seront jugés selon les lois irakiennes. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le président irakien qui était à Paris, qui a rencontré Emmanuel Macron à l'Élysée. Ces 13 hommes, Marguerite Lefebvre, ont été remis aux autorités irakiennes.
Oui, c'est ce qu'a confirmé Bahram Saleh, le président irakien qui était en visite aujourd'hui à Paris. Il était reçu à la mi-journée par Emmanuel Macron à l'Élysée et il a été question, évidemment, de ces Français soupçonnés d'être des combattants de Daesh. 13 d'entre eux, qui étaient jusque-là détenus par les Kurdes en Syrie, ont bien été transférés. Ils ont été remis aux soldats irakiens.
13 éléments de Daesh ont été remis aux autorités irakiennes. Ils sont soupçonnés d'avoir commis des crimes contre notre pays et sur notre territoire. Ces djihadistes seront donc jugés en Irak, selon la loi irakienne. C'est dans ce cadre que nous agissons.
C'est donc à Bagdad désormais d'ouvrir ou non des procédures judiciaires à l'encontre de ces Français qui restent pour le moment emprisonnés en Irak. Leur rapatriement en France n'est pas à l'ordre du jour. Sur cette affaire d'ailleurs, Emmanuel Macron a refusé de s'exprimer. Il a botté en touche. C'est à l'Irak de décider des procédures. Voilà ce qu'a déclaré le président français. Alors que la France cherche toujours la bonne solution sur cette question du rapatriement des djihadistes. Une question qui continue encore d'agiter la classe politique.
Les précisions de Marguerite Lefebvre. La situation humanitaire explosive au Venezuela avec l'ouverture aujourd'hui d'un sommet à Bogota en Colombie. Sébastien Krebs, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. C'est un sommet crucial pour tenter de trouver une solution avec la participation, Sébastien, du vice-président américain qui a fait le déplacement à Bogota.
Oui, Mike Pence qui participe pour la toute première fois en personne à une réunion de ce groupe de Lima, 14 pays, quasi tout le continent sud-américain. Et l'image du jour, c'est évidemment sa présence côte à côte avec le président par intérim du Venezuela, l'autoproclamé Juan Guaido, leader de l'opposition. Mike Pence avait un message pour lui. Écoutez.
Le président Trump m'a envoyé ici pour me tenir à vos côtés, aux côtés de nos amis et alliés vénézuéliens. Président Guaido, je vous transmets un message très simple de Donald Trump. Nous sommes avec vous à 100%.
10%.
Voilà Juan Guaido qui s'est exprimé ensuite, évoquant les violences du week-end. Le monde a vu en une journée, dit-il, la souffrance que nous subissons depuis des années. Il est temps d'agir, demande-t-il, et que le régime sache que nous sommes déterminés à joindre toutes nos forces. Voilà pour l'entrée en matière. Il a demandé à ce que toutes les options soient sur la table. Alors à ce stade, on ne parle pas d'intervention physique ou armée, mais de sanctions économiques et diplomatiques renforcées. La stratégie, c'est celle de l'encerclement, de la pression maximale, asphyxier le régime et miser sur un effet domino qui commencerait par des défections dans l'armée.
Sébastien Krebs, envoyé spécial d'Europe 1 à Bogota. L'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, déballera-t-il le linge sale menacé par son ancien patron, condamné à de la prison ferme? Il témoignera cette semaine au Congrès sur la Russie, mais aussi sur les affaires privées du président américain. Ce sera l'attraction politique de la semaine à Washington. D'autant plus que parallèlement, l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur les liens entre la campagne présidentielle de Donald Trump et la Russie touche à sa fin. Et pendant ce temps-là, le président américain, lui, sera au Vietnam pour un sommet avec Kim Jong-un. Des dizaines de milliers d'Algériens ont manifesté ce week-end dans la capitale et dans les grandes villes du pays pour protester contre la perspective d'un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, 81 ans au pouvoir depuis 20 ans. Le président sortant qui souffre des séquelles d'un AVC. En réponse à cette mobilisation, le Premier ministre a répliqué que les urnes trancheront de manière pacifique et civilisée, a-t-il dit. En clair, il est hors de question qu'Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer ce nouveau mandat, ce que regrette le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, Saïd Sali, qui était l'invité d'Europe 1 ce soir.
Le problème n'est pas seulement la personne de Bouteflika, c'est un problème de système, c'est un problème de gouvernance, c'est un problème du pays. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays bloqué, atrophié, neutralisé. Aujourd'hui, le peuple algérien, notamment les jeunes, cherchent à s'exprimer, cherchent à se réaliser. Aujourd'hui, voilà, il y a toute une génération qui émerge, qui veut prendre de la place, mais il faut dire que le système actuel expose le pays à un danger imminent et certain. Voilà, c'est tout le problème aujourd'hui. La candidature du président, aujourd'hui, ne rassure personne. Et le danger, justement, c'est d'arriver à des situations de dérapage, à des situations justement du chaos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment partisans d'abord pour que le système, pour que le gouvernement en place ouvre un dialogue et pour que ces élections soient vraiment repoussées, soient vraiment arrêtées parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un danger imminent.
Le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, Saïd Sali, qui était l'invité du grand journal de Mathieu Béliard ce soir sur Europe 1. La disparition de l'ancien directeur du journal L'Humanité, Roland Leroy, ancien résistant, ancien député communiste de Seine-Maritime. Il avait 92 ans, engagé dans la résistance à 15 ans durant la Seconde Guerre mondiale. Roland Leroy était ami du poète Louis Aragon. La Ligue de foot professionnelle annonce ce soir le report du match entre Rennes et Nîmes samedi. Objectif, permettre aux Bretons de mieux préparer leur match contre Arsenal. Ce sera jeudi en Ligue Europa. Et puis finalement, c'est non. La métropole de Nantes renonce à céder l'un de ses terrains au club de foot de la ville pour y construire un nouveau stade. Elle estime que le projet ne pourra pas se dérouler dans les délais envisagés dans la mesure où le président des Canaries est visé par une enquête préliminaire pour fraude fiscale. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Elena, notre séquence printanière, voire même estivale, devrait durer encore 2 jours.
Exactement Isabelle, jusqu'à mercredi soir, on va profiter de ce soleil et des températures records si bons pour le moral. Alors record hier en Bretagne avec la barre des 20 degrés atteints. Aujourd'hui c'était en Champagne-Ardenne, demain ce sera dans le sud-ouest, avec des pointes à 25 degrés, voire plus. Alors ce mois de février 2019 n'aura jamais été aussi doux et ensoleillé sur l'ensemble du pays. Dans le détail, on se réveillera sous un ciel bleu demain, sauf c'est vrai sur la Garonne, dans le Val-de-Loire ou le Val-de-Saône, où là vous aurez du brouillard aux premières heures du jour, brouillard levé avant 10h, hein, si vous ne voulez pas le rater, il faudra vous lever et pas l'ombre d'un nuage l'après-midi. Concernant les températures, on va encore connaître de très belles amplitudes demain avec la matinée hivernale, hein, à Charleville-Mézières, Nevers ou Montluçon avec moins 3 degrés, puis 18 à 20 degrés dans ces villes l'après-midi. Le minimum sera pour Cherbourg avec 13 degrés, 15 à Dunkerque et Ajaccio. Ajaccio et la Corse qui seront débarrassés des vents demain. 18 pour Angers, pour Paris, Strasbourg et Lyon. 19 à Poitiers, Auxerre et Montpellier. 20 degrés à Blois et Marseille. 24 pour Clermont-Ferrand. 22 à Toulouse et Avignon. 24 degrés pour Biarritz ou Cahors. Jeudi sera la journée chamboule-tout. Et celle qui va tout chambouler, ce sera une perturbation pluvieuse qui arrivera par l'ouest.
Eh bien, on suivra ça avec vous. La météo signée Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Fabien Solman, le fondateur de Pool House qui commercialise des œufs bio issus de poules pondeuses qui n'iront pas à l'abattoir. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
la belle vie.
Dis donc Chantal, je t'ai jamais vue aussi heureuse. C'est quoi ton secret?
René Coste Viager. Grâce à eux, en moins de 3 mois, j'ai vendu en Viager. Ils m'ont trouvé un investisseur sérieux et ils sont vraiment efficaces.
Et ils s'occupent de tout?
Oui. Appelle-les au 0800 960 900 pour une étude gratuite.
Attends, je note. René Coste Viager, 0800 960 900.
Et l'appel est gratuit.
René Coste Viager, le numéro 1 du viager en France. La belle vie.
Et si le son que vous entendez était celui de l'avenir? C'est le son de la chaîne de tri installée à Chagny, en Bourgogne. Elle sépare les déchets organiques des ordures ménagères pour les convertir en biogaz. Injectée dans le réseau, cette énergie peut alimenter 2500 logements pendant 1 an. La transition écologique, il y a ceux qui en parlent et ceux qui la font. Pour en savoir plus, gazenergiedespossibles.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h17, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous, Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui débute la semaine en hausse après les nouvelles encourageantes concernant les négociations commerciales entre Américains et Chinois.
Et oui, Donald Trump évoque un possible accord commercial à l'horizon et du coup les marchés montent encore. Le Dow Jones prend 0,3%, 26 092 points. Le Nasdaq plus 0,36%. À 7 554 points, petite hausse, mais hausse quand même. Et puis les opérations financières animent toujours la cote. General Electric gagne 6%, un peu plus, 6,3% à $10,82, alors que le groupe General Electric va céder son activité biopharmaceutique pour plus de $21 milliards à Danaher. Aux valeurs de technologie, alors Apple monte un petit peu, 0,7% de mieux, Microsoft plus 0,5%, Amazon est stable avec IBM. Et le pétrole, lui, repère 3%, $57, alors que Donald Trump, encore lui, a appelé les pays producteurs à se calmer, ce sont ses propres mots, en jugeant les prix trop élevés. Et du coup, donc, le brut redescend de 3%, $57 le baril ce soir. L'euro ne bouge pas, 1,1360 face au dollar.
Et la Bourse de Paris a, elle aussi, de nouveau progressé.
Ça monte encore, plus 0,3%, 0,31% exactement, 5231 points. Certaines valeurs qui étaient remontées la semaine dernière poursuivent leur rebond, comme Air France KLM, encore plus 3,3%, 12,08€, cinquième séance de hausse, avec un sursaut de 18% à la clé, sur fond de détente sociale au sein du groupe. Et puis les équipementiers automobiles remontent aussi, Valeo plus 3,2%, Faurecia plus 3%, Michelin plus 2,7%, Peugeot gagne 2% avant ses comptes annuels, ce sera pour demain matin. Les banques aussi s'avancent de l'ordre de 2% pour la Société Générale, BNP plus 2,2%, Crédit Agricole plus 1,8%. Et puis Europa Corp, c'est la plus forte hausse du jour. Le groupe de Luc Besson regagne 11%. Vous en parlez tout à l'heure après le classement sans suite de l'enquête qui visait le producteur.
Et puis exception du jour, Didier, Alten qui a redonné, regagné du terrain ou redonné du terrain?
Redonné un petit peu de terrain, oui, ça recule un petit peu, même assez nettement. 6,5% de baisse à 115€ après l'annonce de l'acquisition du Canadien Clémentia pour $1,3 milliard dans les maladies rares. L'opération est lourde. Elle risque de peser sur les comptes du groupe Ipsen, donc avec une marge opérationnelle qui risque de baisser de l'ordre de 31 à 30% pour cette année. Ipsen, du coup, recule de 6%, 6,5% ce soir à la clôture. Sur les autres places financières, ça monte un petit peu. Plus 0,4% sur le DAX à Francfort, plus 0,4% aussi à Bruxelles, plus 0,9% à Milan. On rappelle le CAC 40 en hausse de 0,31%, 5231 points.
Merci beaucoup Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Et à 22h20, c'est l'heure de retrouver l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir le fondateur de Pool House.
Bonsoir Fabien Solman.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous avez fondé Pool House. Pool House, ce sont des œufs bio vendus très cher, 1 euro l'œuf. Pour que tout le monde visualise bien ce que c'est Pool House, vous, votre idée de base, c'est que vous êtes rendu compte que les poules sont tuées généralement aux alentours des 18 mois au moment où elles sont moins productives, alors qu'une poule peut vivre sans problème jusqu'à 5-6 ans, voire même un petit peu plus, qu'elle continue de pondre moins, mais elle pond des œufs plus gros. L'idée de base pour vous, c'est d'avoir monté, je ne sais pas si vous aimez quand on le dit comme ça, mais une sorte de maison de retraite des poules pour leur permettre de vivre et de vendre les œufs. C'est ça l'idée?
Si on veut, oui. C'est l'image qui est le plus souvent véhiculée sur notre projet. En fait, nous, on a plutôt le sentiment de construire un nouveau segment dans la filière de l'œuf, un segment plus éthique dans le sujet de la cause animale. On a effectivement identifié trois points qui nous semblent vraiment problématiques. C'est le fait que les poussins mâles sont tués à la naissance, que les becs des poules sont systématiquement coupés également à la naissance et que les poules elles-mêmes, après avoir pondu, sont tuées à l'âge de 18 mois alors qu'elles peuvent vivre longtemps et pondre encore longtemps. Donc notre baseline, c'est l'œuf qui ne tue pas la poule. On arrive à ne pas envoyer les poules à l'abattoir et à ne pas leur couper les becs. Et ça, on le fait en faisant payer l'œuf plus cher. Et c'est le consommateur qui finance l'ensemble de la vie de la poule et elle va vivre une vie complète et pondre à son rythme jusqu'à la fin.
Alors, faire payer le consommateur assez nettement quand même, hein, puisque vous, le concept, c'est 1 euro l'œuf et donc 6 euros la boîte de 6 œufs.
Absolument. Alors, je ne vais rien dévoiler là, mais on va avoir des surprises cette année. Justement, on va essayer de faire évoluer notre gamme de prix.
C'est-à-dire que vous allez essayer de faire payer moins cher
exactement.
Le consommateur.
On va travailler sur d'autres projets pour reprendre ce prix d'une autre manière, parce que c'est effectivement quelque chose qui remonte de la part des consommateurs.
Ce qui remonte, c'est-à-dire que vous avez des consommateurs qui vous disent « on aimerait bien, mais là, c'est quand même vraiment trop cher pour que je puisse me le permettre ».
On a beaucoup de consommateurs qui adorent et qui nous disent « on continuera à acheter uniquement vos œufs ». On a aussi des consommateurs qui nous disent « j'aimerais vraiment monter à bord, mais c'est trop cher pour moi » et on va s'occuper de leur répondre.
D'ici combien de temps ?
Dans les mois qui viennent. Le point
mais
clé...
comment vous allez réussir à faire en sorte de baisser le prix alors ?
Je reviendrai vous en parler, ça ne va pas tarder. Mais ce qui compte en tout cas, c'est bien de comprendre qu'aujourd'hui, on est dans un moment clé où le consommateur prend les commandes et on le voit à plein de niveaux. On le voit télécharger massivement une application pour identifier sur l'étiquette ce qu'il consomme. On le voit acheter massivement des briques de lait qui rémunèrent mieux les éleveurs et on le voit à travers notre œuf payer plus cher pour un comportement en termes de bien-être animal modifié. Donc voilà, je crois qu'on est dans un moment où le consommateur a pris conscience que par ses dépenses du quotidien et par ses dépenses alimentaires, il peut faire bouger les choses dans les modes de production.
Aujourd'hui, vous êtes distribué chez de nombreuses marques. Vous êtes chez Monoprix, vous êtes chez Naturalia, vous êtes chez Franprix et j'en oublie sûrement. Vous vendez aujourd'hui combien d'œufs par mois, par an ?
Alors, on a déjà vendu 1 500 000 œufs. Ça s'accélère assez fortement en ce moment. On est à plus de 200 000 œufs par mois vendus et c'est en train de grossir fortement. Pour nous, l'enjeu, c'est un enjeu d'accélération sur cette année. C'est pour ça aussi qu'on s'est financé pour pouvoir aller vraiment chercher une croissance importante. On va toucher plus d'enseignes. On est encore que dans 700 magasins et notre ambition, c'est de monter dans plus de 2500 magasins dans l'année. Donc effectivement, il y a tout un travail de référencement qui est en cours et de présence le plus local possible. Et puis après, il y a tout un travail de diversification.
Mais est-ce que c'est ça qui est intéressant ? Vous vous êtes dit, c'est bien gentil, on a trouvé cette idée de l'œuf, mais finalement, nos clients derrière, on les laisse un peu orphelins quand ils veulent acheter un gâteau, quand ils veulent acheter autre chose dans lequel il y a de l'œuf, parce que là, ils ne retrouvent pas l'éthique que vous avez développée. Donc là, on commence avec un gâteau, c'est ça ? C'est le premier acte de diversification ?
Oui, voilà. Alors, c'est vraiment pour un peu lancer la balle sur ce sujet. C'est un sujet qui est méconnu. C'est quand même presque la moitié du marché de l'œuf, les produits transformés. Et ces produits transformés ne bénéficient pas, et ça c'est un petit peu un combat pour nous, ne bénéficient pas de la même transparence auprès du consommateur que l'œuf en coquille. C'est-à-dire l'œuf en coquille, vous avez ces codes 0, 1, 2, 3 qui vous indiquent le mode d'élevage de la poule. Sur les produits transformés, ça n'est pas écrit. Vous avez juste écrit œuf frais, œuf entier. Vous ne savez pas si c'est un œuf de code 3, c'est-à-dire cage. Le plus souvent, c'est le cas en fait. Donc nous, on pense que notre démarche éthique a du sens aussi sur les produits transformés. On crée notre premier gâteau, mais on fait surtout un appel à tous les industriels qui font des produits transformés, qui font des gâteaux, des pâtes, etc., à venir adopter notre produit dans leur propre production et se prévaloir aussi de la démarche de bien-être que
vous lancez un appel, mais ils répondent à votre appel. Vous en avez déjà qui vous ont passé des petits coups de fil.
Ça commence, ouais. Il y a des discussions. Effectivement, ils ont le même sujet que nos consommateurs de voir un prix qui n'est pas le prix auquel ils sont habitués, mais en pouvant se prévaloir justement d'une démarche éthique sur le bien-être animal, ils sentent bien qu'il y a quelque chose à faire. Et oui, je pense qu'on va avoir des annonces dans l'année. Oui.
Alors là, vous commencez par un gâteau, mais l'idée, c'est d'avoir finalement une gamme quasi complète de tous les produits à base d'œufs.
Je pense qu'à la marque Poulaus, on va en rester au gâteau. C'était d'accord. Pour lancer la balle. Et ensuite... quand quelqu'un adopte.
L'idée, c'est plutôt qu'un industriel dise « nous, on fait tel produit grâce aux œufs de Poulaus,
voilà,
c'est ça ?»
Voilà, et là, on aimerait qu'il puisse citer notre marque dans sa communication également, puisqu'on sera concerné.
Et ça, c'est d'ici combien de temps, du coup? Vous dites que c'est dans l'année? Donc les contacts commencent à être déjà quand même bien avancés.
Exactement.
Bon, c'est le salon de l'agriculture en ce moment, ça j'apprends rien à personne en la matière. Vous, vous avez décidé de ne pas être au salon de l'agriculture et plutôt d'être présent dans des salons un petit peu concurrents qui se tiennent au même moment que le salon de l'agriculture. Pourquoi ça sert à rien le salon de l'agriculture? C'est trop cher?
Non, c'est-à-dire que le salon de l'agriculture, c'est pas le salon du bien-être animal. Ces animaux sont pas forcément au mieux de leur forme quand on les garde pendant plusieurs jours ou semaines dans cet endroit. Et donc, ça nous questionne un peu. On n'a pas forcément envie de participer de cette façon-là. Mais voilà, on y va quand même. On rencontre des intervenants avec lesquels on va être amené à travailler. Ne pas avoir de stand, c'est aussi avoir la liberté d'aller rencontrer plus de personnes plus facilement.
Mais vous, ce qui est le plus compliqué quand même dans votre procédé, c'est de faire comprendre aux gens comment on peut faire payer un œuf un euro et toute l'histoire qui est derrière. C'est ça aujourd'hui pour vous le plus compliqué?
Absolument, c'est-à-dire que ce surcoût, il correspond à quelque chose et il faut l'expliquer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette poule, quand elle va pondre moins, elle va toujours manger autant. Et comme là, on parle d'un œuf bio, c'est la nourriture qui est vraiment très coûteuse. Et dans sa période de sa vie où elle va pondre peu, elle va représenter un coût. Et les œufs qu'elle va pondre ne suffisent pas à financer la vie de cette poule. Donc il faut bien avoir capitalisé au début, et c'est une démarche où là on peut rejoindre la notion de retraite. C'est une démarche où il a fallu capitaliser en début de vie de la poule pour financer cette période.
Et bien, un grand merci Fabien Solman, donc le cofondateur de Poulahouse, qui était notre invité ce soir. On se retrouve demain 22h20, toujours sur Europe 1.
À demain évidemment. Merci beaucoup à vous Emmanuel Duteil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les informations que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? Et voici ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Wauquiez, la stratégie de la tortue, titre le journal L'Opinion. Le président des Républicains présentera au début du mois prochain les propositions de son parti dans le cadre du grand débat voulu par Emmanuel Macron. Il défendra notamment la revalorisation du pouvoir d'achat grâce au travail. Plus présent depuis janvier, il reste en difficulté dans les sondages, nous dit L'Opinion. Pour les élections européennes, les intentions de vote pour les Républicains sont basses, 12% selon la dernière enquête. Laurent Wauquiez veut croire qu'il est sorti d'un hiver compliqué et que petit à petit, il va réussir à se faire entendre des Français. Dans le journal La Croix, Laurent Ehrenwein revient lui aussi sur l'échéance des européennes et les stratégies qui se précisent peu à peu à l'approche du scrutin. On aurait pu croire, écrit-il, que la crise des Gilets jaunes affaiblirait Emmanuel Macron et sa majorité, accompagnée d'une montée en puissance du Rassemblement national. La liste de La République En Marche, toujours sans leader, reste pourtant en tête des projections, talonnée à 2 ou 3 points en arrière par celle de l'extrême droite. Dans les intentions de vote, les Républicains sont à la traîne comme ils ne l'ont jamais été. La gauche, elle, s'effondre, incapable de se rassembler. Dans les semaines qui viennent, la majorité va surtout chercher à consolider sa faible avance, puisant dans le socle de la droite modérée qui récuse la ligne donnée aux Républicains par Laurent Wauquiez. Elle va aussi parier que des électeurs de gauche, minés par le spectacle de ces divisions, seront tentés par un vote utile pour contrer le Rassemblement national. Algérie, l'étincelle, peut-on lire à la une de Libération. Journée à haut risque demain, alors que les étudiants appellent à manifester contre un 5e mandat du président Bouteflika. À lire dans le journal La Montagne, l'édito de Bernard Stéphan, également consacré demain à l'Algérie. Personne, écrit-il, ne s'attendait au réveil de l'Algérie. Il est vrai que le pouvoir a poussé jusqu'à la caricature, la candidature pour ce 5e mandat du président sortant. Les Algériens, qui sont patients mais pas dupes, ont fini par dire non au président invisible et non au candidat invisible. Et comment imaginer une autre attitude dans une Algérie où 45% de la population a moins de 25 ans? Jusque-là, le pouvoir contenait les velléités de son peuple avec la rente pétrolière qui permettait d'acheter la paix sociale. Mais le prix du baril a chuté et le peuple s'éduque. Le symbole du président cloué dans un fauteuil roulant qui n'a pas parlé à son peuple depuis 2012 n'engage pas à voter pour lui. Le temps du changement est peut-être venu. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des Unes de la Presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle, heureuse de vous retrouver en ce lundi.
Pareillement, très bon début de semaine à vous.
Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Europe 1, 22h30, 1h, la Libre Antenne.
Sophie Peters.
Heureuse de vous retrouver en ce lundi à ce micro où vous venez vous confier, chercher des réponses à vos interrogations. Ces interrogations, il arrive aussi que vous me les posiez par SMS en réaction à ce que je viens d'évoquer avec un auditeur, ainsi de Brigitte qui, jeudi soir, me demande ce que signifie « penser à soi ». En voici un joli sujet d'introduction, me suis-je dit en découvrant ce message. Déjà, penser à soi, c'est prendre soin de soi. Car penser à soi revient dans sa formulation à exclure la pensée de l'autre et à ne s'intéresser qu'à soi-même. Celui ou celle qui ne pense qu'à soi, bah, c'est l'égoïste justement, celui que l'on veut à tout prix éviter d'être en ne pensant qu'aux autres. Mais alors, on se coupe de notre partie la plus vivante et de nos besoins fondamentaux. L'enjeu n'est évidemment pas celui-ci, mais plutôt celui d'une pratique, celle que le philosophe Michel Foucault nommait le souci de soi. Lorsque l'on peut prendre soin de ce qui est à nous et de ceux et ceux qui dépendent de nous, lorsque l'on fait attention à l'autre, que l'on soigne, que l'on réfléchit, que l'on revient sur un geste, une idée, lorsque l'on est capable de changer d'avis, lorsque l'on s'enrichit de connaissances, on a le souci de soi. Apprendre à s'accepter tel que nous sommes, voilà la meilleure façon de prendre soin de nous. Et c'est ce que nous faisons ici dans cette libre antenne, prendre soin de vous pour vous amener à faire de même. Florian et Thomas attendent vos appels au 3921 et c'est Philippe Chartier qui réalise cette émission, notre Fifi nationale. Et puis vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 739-21 en commençant votre texto par le mot « nuit ». Vous pouvez également nous contacter par mail à libreantenne tout attaché en minuscule @europe1.fr ou sur la page Facebook Sophie Peters. Venez prendre soin de vous au 39 21.